Est-ce qu'il y a des questions?
Et naturellement, j'aurais dû faire allusion par amitié pour François Picard, qu'il faut aussi avoir quelques connaissances ethnomusicologiques pour aborder le solo, parce que dans mes enquêtes, j'ai mis en relation, en fondant là aussi sur des écrits de Wagner, avec la mélodie des gondoliers de Venise et aussi le rang des vaches présenté par Jean-Jacques Rousseau dans son dictionnaire de musique.
Voilà, un quart d'heure, 20 minutes pour des questions.
Merci beaucoup pour tout et puis pour ce livre dont ça sera de. Il y a pire. Une question sur les performances salives.
Ah.
Tu abordes ça dans ton
totalité,
qui est le études multiformes, tu apportes la question des performances salives. Mais il y a quelque chose qui est revenu avec malheureusement l'actualité depuis l'apparition de ton livre, en tout cas pour moi qui n'avais pas vraiment suivi les années 60, une interprétation au camp anglais, c'est le fait que le plus grand interprète de camp anglais des années 60, c'est Jean-Claude Malgoire.
Oui.
Et qui, pour ma génération, est un des piliers de la musique baroque, de l'interprétation à l'ancienne, des instruments anciens, etc. Donc, qui m'a donné, et malheureusement, ça, heureusement, et son décès malheureux m'a donné l'occasion de découvrir son interprétation, bon, comme tout le monde, sur YouTube, qui est pas du tout informé, qui est complètement années 60, qui est absolument magnifique, mais qui est. Comment on peut dire ça par rapport au devenir de ce qui est devenu notre écoute et au devenir de ce qui est devenu le parcours de Malgoire lui-même. Où est-ce que ça...
Je ne comprends pas bien ta question.
Jean-Claude Malgoire, un des fondateurs.
Donc, il a enregistré le solo.
Il était, avant d'être chef d'orchestre et baroqueux, il était le meilleur joueur
de cor anglais.
Et alors acheté à Sine, avec, comme ça, moderne, hyper moderne, des années 60. Il était... Oboïste, spécialité cor anglais.
Et alors ?
Et sa version est la version de référence de cette époque-là. Quand je l'écoute, j'entends que c'est super bien, c'est très bien joué, que ça a pu toucher dans les années 60, que
mais...
moi, ça me touche aujourd'hui, mais c'est pas du tout François-Xavier Roth, c'est pas du tout historiquement informé, comme on demanderait même pour Wagner aujourd'hui, ou même pour... Et donc comment est-ce qu'on peut dire quelque chose là-dedans, si ce n'est qu'une une fracture qui n'a pas beaucoup d'intérêt, quoi. Il y a un monsieur, il s'appelle Jean-Claude Malgoire, et puis après, il y en a un autre.
Là, il faudrait parler des juger sur pièce. Je veux dire, moi, ce que j'ai fait dans mon bouquin, c'était de donner un exemple du lien qu'on pouvait faire entre l'analyse des structures et l'analyse des interprétations, en les superposant paradigmatiquement, d'ailleurs, pour montrer qu'il y a des endroits où tout le monde est d'accord pour respirer, donc pour isoler des phrases, puis il y a d'autres endroits où les gens ne sont pas d'accord. Et par exemple, j'aime beaucoup l'interprétation qui est dans le disque de Tristan dirigé par Carl Böhm. Je l'ai réécouté il y a deux jours, puis je me suis aperçu qu'il y a deux endroits où le joueur de cor anglais ne respecte pas les phrasés, ce qu'on peut tirer des phrasés et des nuances de la part de Wagner. Notre jugement sur une interprétation, il est toujours un amalgame. Et puis surtout, c'est très très rare que, sauf des spécialistes comme nous, que nous portions un jugement sur ces interprétations, un jugement informé par l'analyse de la pièce et sa contextualisation socio-esthétique. Alors, ça il faudrait voir, qui est une histoire de l'interprétation, ça on en est absolument tous convaincus. Ne serait-ce qu'à cause des travaux de nos collègues britanniques qui ont été les pionniers dans ce domaine il y a déjà pas mal de temps, et de montrer quels sont les aspects des partitions qui sont pris en charge selon les écoles d'interprétation. Donc ça devient une question empirique que de voir un petit peu ce qui se passe historiquement.
Est-ce qu'il y a des questions?
Oui, Jean-Pierre.
Oui, tu dis souvent, ou tu l'as écrit, que les méthodes d'analyse très souvent se concentrent soit sur le politique, soit sur l'immanence, soit sur l'éthique. Et je me demande souvent, est-ce que tu ne crois pas que Léonard Meyer est un des premiers à avoir justement essayé, dans le même geste méthodologique, d'à la fois voir la perspective poétique et la perspective esthésique dans un même mouvement?
Non seulement je ne l'ai pas publié comme tel, là où enfin, moi je l'ai dit, c'est grâce à ton invitation, l'invitation que tu as faite de moi à la Sorbonne il y a quelques années. Et j'avais justement abordé ce problème quand j'ai fait l'analyse des écrits de Léonard Meyer devant tes étudiants, c'est que justement, et je lui avais posé la question à Meyer, Meyer ne fait pas la différence entre le poétique et l'esthésique. C'est-à-dire il ne distingue pas ce qu'on peut appeler l'esthésique interne de compositeur, c'est-à-dire la perception que le compositeur se fait du résultat de son œuvre. C'est une dimension perceptive, mais elle n'est pas du même ordre que l'autre. Ce sont les prévisions. Les prévisions que le compositeur fait sur la façon dont l'œuvre va être entendue. Et puis, il y a la façon dont elle est entendue effectivement. Et ça, Meyer n'était pas conscient de cette différence-là. Il mettait les deux choses dans le même sac. C'est pour ça que quand on le lit, on a le sentiment qu'il parle aussi bien du poétique que de l'esthésique, mais sans faire cette... Ça n'enlève rien à la grandeur de Explaining Music, hein. Qui nous montre quels sont les outils qu'on peut utiliser pour analyser les prolongements, les prolongements mélodiques, les mises en relation avec l'harmonie, le rythme, etc. Mais voilà. Et c'est pour ça qu'on a encore besoin de la tripartition, d'ailleurs, à ce moment-là. Eh oui. Mais il n'était pas conscient de cette. Je lui dis, mais enfin, Léonard, oui, ce que vous dites là, c'est vrai pour le compositeur, mais c'est pas vrai pour la personne qui entend, ou l'inverse. Alors, il l'a pas. C'est un mot très important pour nous, pour nos méthodologies. Il n'a pas thématisé la discrépance entre le poétique et l'esthésique, ce qui fait qu'il parle des deux.
Il parle d'une sorte d'auditeur idéal qui est le...
Oui. Alors ça, le concept d'auditeur idéal, allez voir Lerdal et Yakundov, c'est la deuxième ligne de leur ouvrage. C'est l'autre problème. Qu'est-ce que c'est que l'auditeur idéal? Ouais.
Il y a un point qui m'a interpellé dans ton intervention, l'affirmation, le niveau immanent à une réalité objective. C'est la manière dont tu l'as dit à l'instant. Tu soulignes à la conclusion, au début de l'ouvrage, que la préoccupation majeure finalement dans ton écrit a été de montrer que l'analyse immanente est absolument indispensable, c'est ce que tu disais à l'instant aussi avec emphase, pour fonder les exégèses.
Ouais.
Et il s'agit du coup...
Pour les fonder.
Oui, pour fonder les exégèses. Oui. Du coup, il s'agit de partir des œuvres pour s'ouvrir au contexte. Je pense que vraiment, c'est une approche qui est très très fructueuse. Paradoxalement, elle n'est pas si loin de certaines préoccupations d'Alhaus. Alors évidemment, il y a l'idée, mais il y a l'idée aussi de fonder une herméneutique qui parte des œuvres musicales, et pour s'ouvrir à des contextes. Donc, je pense que malgré en fait la réception à telle et telle époque en Allemagne de l'approche, il y a des affinités à ce niveau-là au moins qui mériteraient aussi d'être suivies, d'être appréhendées.
Mais quand il y a eu ces réactions en Allemagne que j'ai citées, c'était uniquement par rapport à l'analyse paradigmatique qui était purement structurale dans les années 70.
Ouais.
Et ça, c'est aller beaucoup plus loin après à cause de la tripartition.
Alors justement, ma question se situe au niveau de l'articulation des niveaux. L'identification d'éléments immanents, aussi simple qu'il puisse paraître que l'identification d'accords, on se rend compte qu'elle est finalement tout sauf triviale.
Bien sûr.
L'une des discussions qu'on a eues avec Philippe à maintes reprises, c'était effectivement le statut de telle et telle dissonance vue par telle et telle fenêtre historique. Ça va assez loin finalement, c'est-à-dire qu'on peut vraiment opposer deux points de vue analytiques qui peuvent être justifiés à partir de lectures soit de notre perspective actuelle, soit de la perspective de Fétis pour l'identification de ce qui pourrait être une dissonance à telle et telle époque. Donc ma question encore une fois se situe au niveau de l'articulation des niveaux. Est-ce qu'il n'y a pas... Une fois, je suis de manière générale l'idée de partir de l'œuvre, des structures immanentes, pour après mettre en lien les contextes. Mais est-ce qu'il n'y a pas un un risque potentiel dans cette méthode, comme dans toutes les méthodes, de se priver d'une réflexion contextuelle pour permettre l'identification structure immanente.
Je dis dans la conclusion qu'il n'y a aucune raison, une fois qu'on a fait tout ce travail, si on a trouvé par exemple un élément dans l'herméneutique tirée de l'étude des contextes, de ne pas la réintroduire et de bouleverser ce que l'on avait fait au niveau immanent. Dans les fondements d'une sémiologie de la musique de 75, il y a une phrase qui avait fait l'objet de discussions amicales avec François, à savoir qu'il y a des phénomènes d'aller-retour et que le niveau neutre peut être bouleversé au regard soit de prendre la prise en compte dans ce qui t'intéresse des conduites perceptives ou d'informations externes. Donc en fait, il y a, disons, j'ai une préférence personnelle qui s'explique peut-être au niveau de mon histoire personnelle pour le mouvement qui va du structural vers l'extérieur. Mais je suis absolument d'accord qu'il faut pouvoir revenir à partir de l'extérieur. D'ailleurs, à un moment donné, il me semble que dans le bouquin là sur Tristan, quand je cite tes travaux sur les conduites perceptives, je montre qu'on peut projeter les catégories que tu as mis en évidence sur une réinterprétation des structures. Il me semble que je l'ai fait.
Est-ce qu'il y a des questions?
Oui, je voudrais peut-être un mot. Bon, d'abord, je suis extrêmement content de ta présentation, mais surtout parce que ça éclaire un point, peut-être, je ne sais pas, ça va être une question. Tu dis qu'il faut commencer par le niveau immanent, c'est classique, etc. Mais tu as ajouté dans la présentation. Alors, ouais. Quelle question?
Absolument.
Est-ce que c'est dans la présentation ou est-ce que c'est dans le travail de recherche? C'est parce que ce soit dans la présentation, c'est l'importance de l'autre. Effectivement, dans la mesure où ça permet de fonder tout ce qui est de l'ordre de la réception, par exemple, pour les parler de réception, c'est assez normal, enfin, c'est possible en tout cas, de commencer par une description du niveau immanent. Mais par contre, là où ça devient plus grave, c'est plus grave.
Ben oui,
je veux dire, est-ce qu'il faut dans la recherche commencer par une description immanente, mm-hmm. ou bien au contraire commencer par des lecteurs, par exemple par des entretiens, des témoignages.
Ben c'est ce qui nous distingue, toi et moi. C'est ce qui nous distingue.
Voilà, merci de ce mot qui est très différent de qui nous oppose.
Ah, mais j'ai pas voulu parler d'opposition entre toi et moi.
Et bon, mais par contre, ça distingue nettement, deux positions qui ne sont pas seulement la tienne et la mienne, mais qui sont la position de beaucoup de gens. Mmh. Alors, ce qui m'étonne un petit peu, c'est quand tu dis là, dans la présentation, parce que toi, d'habitude, tu ne dis pas ça, tu dis dans la recherche. Par exemple, là, si je cite le début de ton livre, dans l'introduction, tu dis l'objectif est de démontrer qu'il convient de se donner d'abord une analyse immanente du saut aussi complète que possible avant de le mettre en rapport avec autre chose.
Avant de le mettre en rapport.
D'accord. Est-ce que le d'abord et le avant désignent le processus de recherche? C'est là que ça devient assez
pointu.
Ou bien est-ce que c'est la présentation? Alors, c'est ce que d'ailleurs, ce qui m'interroge un petit peu dans le titre que tu as donné ton intervention, là, par quel bout commencer? C'est toujours la question par quel bout commencer.
C'est ça.
Est-ce que ça fait des divergences? Oui, ça fait des divergences de fait. Parce que, comme tu le dis d'ailleurs très justement, si l'on veut en donner une image qui ne laisse pas trop d'aspects de côté. Alors c'est l'idée que si on commence par le niveau immanent,
on va balayer
des choses qu'on n'aurait jamais trouvées par la réception. Par exemple.
Oui.
Ça, je dirais, c'est presque évident. C'est presque évident. Ben il y a plein de trucs dans une partition qu'on ne pourra jamais.
Mais c'est bien ce qui m'embête.
Personne ne dira.
C'est bien ce qui m'embête quand on commence par les conduites perceptives.
Alors, la question exactement complémentaire, c'est est-ce que quand on commence par les conduites perceptives, il n'y a pas des configurations qui apparaissent dans les verbalisations,
oui.
par exemple, que jamais on aurait trouvé sur des
partitions. Oui. Je pense que je l'ai montré dans mon bouquin, c'est-à-dire que j'ai analysé, tu t'en souviens, j'ai analysé les analyses de Irène de Liège du solo de cor anglais, dans lequel elle montre que les gens font des segmentations à l'audition du solo qui sont absolument aberrantes pour un musicien comme nous, qui allons segmenter les motifs et les phrases en fonction de notre... Bon, il y a vraiment des choses très très étonnantes qu'elle met en... Et évidemment, ces aspects du comportement des auditeurs sont absolument... Il n'y a aucune raison de les exclure.
Dans ce cas-là, dans la recherche, c'est c'est un peu exagéré de dire il faut commencer par celui-là et finir par l'autre. Je dirais qu'il ne faut pas hésiter à commencer un peu par un bout, un peu par l'autre. Je dirais pour être conciliant, comme ça. Non, mais tu ne sais pas ce que tu dis. Toi, souvent, tu dis il faut commencer par celui-là. Et donc, alors, j'ai été frappé par la conclusion que vous nous avez envoyée, je trouvais très bien. Tu commences par dire il faut fonder sur une analyse. Ça, fonder, on est tout à fait d'accord. Ouais. Et trois lignes après, tu dis donc il faut commencer par une analyse immanente.
Oui.
Alors, le commencer, est-ce que c'est la fonderie du
temps ? Eh bien, je vais te faire une promesse en public. C'est que a atterri sur ma table la semaine dernière la traduction anglaise de cette brique sur le solo de corps anglais. Alors je te promets qu'il va y avoir un développement sur la question que tu viens de soulever dans l'introduction que je vais ajouter.
Si ça me permet de faire cette petite remarque, que effectivement, selon qu'on commence par un bout ou qu'on commence par l'autre, on ne trouve pas exactement la même chose, qu'il y a des choses qui restent dans l'ombre selon qu'on commence par un bout ou par l'autre, c'est parce que dans le milieu de la musicologie, cette question se pose.
Oui.
Alors, ça m'a amusé souvent de remarquer qu'il y a quelqu'un qui est Spampinato, là, tu sais que tu connais peut-être, qui à propos de Debussy, Poète des Eaux, dit exactement le contraire de toi, c'est-à-dire qu'il dit la même chose, je dirais, mais en inversant le d'abord et le ensuite. Alors, lui, il dit exactement, une analyse qui néglige le sens produit par une expérience d'écoute ne peut se considérer légitime ni exempte du risque de ne pas aller au-delà d'un simple exercice de lecture de la partition. Et il ajoute, partir du sens signifie partir de l'écoute, partir, j'insiste sur le partir, partir de l'écoute et des métaphores que celle-ci produit dans l'esprit pour vérifier ensuite quel élément de la musique, technique et le dialecte du compositeur contribue à engendrer un certain sens sur sa réalité.
Oui, mais ça m'embête.
Ça, sauf que vous procédez à l'envers.
Oui, et ça m'embête. J'ai pas lu le bouquin en question. Hein. Ça m'embête parce que du coup, j'aimerais. Il faut je vois son livre, s'il analyse une œuvre en particulier, de voir qu'est-ce que c'est qu'il laisse de côté à partir de ce point de vue-là.
Bien sûr qu'il laisse des choses de côté. On est d'accord que les deux entrées, donc.
Oui.
Ça me paraît très bien comme conclusion. Donc, ça me paraît tout à fait raisonnable de faire l'un et l'autre,
oui.
Mais certainement pas de dire il faut commencer par ça, il faut ça ensuite. Si c'est dans la présentation...
Je te ferai remarquer d'ailleurs... Attends, tu sais qu'il y a... Il y a un coup d'état méthodologique dans mon bouquin. C'est que si tu regardes la toute première partie, je ne commence pas par l'analyse paradigmatique, je commence par l'analyse linéaire à la Meyer, précisément parce qu'elle est davantage en rapport avec la perception de l'œuvre se déroulant dans le temps que les taxonomies paradigmatiques dont je parle ensuite.
Il reste deux questions. L'une de François Rassier et l'autre de Jean-Marc Trémé par la suite, avant la postcapitule.
Je pourrais très bien que l'ordre d'exposition, c'est la question qui pose ce sur d'où partirais-je, et c'est pour ça que, comme il ne peut pas le résoudre vu la complexité du problème, il ne peut pas écrire son livre. Donc je pense qu'on peut séparer l'ordre de recherche qui lui n'obéit à aucune linéarité et l'ordre d'exposition qui obéit à une linéarité, mais une linéarité trompeuse, parce que souvent la structure même du traité ou de l'exposé, etc., repose sur une ontologie qui est discordante avec l'ontologie de l'objet du livre. Mais la question serait, est-ce que la tripartition tient une valeur didactique
heuristique
est encore valide au niveau des processus de création. Quand on pense par exemple à la question de ce qu'on a vu, vous en avez parlé vous-même, de l'anticipation de l'audition, ce qu'on appelait en rhétorique l'accommodation. Il se pourrait que à tout moment du processus de création, les trois étapes soient en jeu et que ce ne soit qu'une nécessité, du moins conventionnelle, dans nos habitudes d'exposition, de les séparer. Ce qui fait d'ailleurs que les meilleurs lecteurs ou auditeurs sont les gens les plus cultivés, tout simplement parce qu'ils ont accès, eux aussi, comme le créateur, au corpus.
Angelo ?
Oui, merci beaucoup.
Merci.
Vraiment, question énorme et soulevée. Et ma réflexion, c'est la suivante. Donc, nous avons un problème des processus et des situations statiques. Donc, le seul outil que je connais pour résoudre le problème d'intégration entre statique et processus, c'est les systèmes.
Les systèmes ?
Les systèmes.
Non.
La systématique non. nous donne les moyens, c'est une idée, c'est un concept, qui vient de l'informatique, bien sûr, de la cybernétique, mais seulement, qui nous donne la possibilité de penser l'œuvre comme un système qui va coévoluer avec l'environnement, avec les sujets externes, les contextes, etc. C'est-à-dire que les systèmes prévoient à l'idée d'un feedback continu entre les processus, la création et l'interprétation, la réalisation vivante de l'œuvre. Cette idée du système permet, à mon avis, d'élargir le périmètre qui est défini aujourd'hui, c'est-à-dire tout ce qui est structure, texte, écriture, et élargir à la musique contemporaine. On dit que dans beaucoup de musique contemporaine, il n'y a pas de structure, disons, ni d'écriture très stable, mais disons, à la Simondon, métastable. Hein? Et les systèmes permettent en continu des processus de feedback que les compositeurs connaissent bien. Ces compositeurs ont la perception que ces œuvres ne marchent pas. Il est totalement dans la vie de changer, de améliorer, de transformer. Aussi, les textes se transforment en histoire. La philologie est pour ça. Donc, l'idée du système, c'est quelque chose qui n'est pas une solution simplement de la cybernétique, mais qui, les systèmes de l'informatique aujourd'hui, posent, évidemment, dans les contextes, par exemple, numériques et d'Internet, de web. Et donc, il faut se confronter avec ce nouvel contexte.
C'est une question qui va nous permettre de faire le lien avec la deuxième partie de la séance, quand on abordera en fait les approches de Simondon sur la métastabilité justement. Ça sera vraiment le cœur du débat d'une partie, au moins des échanges qu'on aura avec François Arancier par la suite. Je vous propose donc de faire la pause pour l'instant de l'ordre d'une demi-heure, à peu près pas plus, de manière à ce qu'on reste strictement dans les limites qui s'étaient fixées pour la seconde partie. Je vous remercie à Jean-Jacques.